Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue dans la matinale. Mise en place d'une commission pour la rédaction d'une nouvelle constitution au Mali, elle a été annoncée au journal officiel par un décret présidentiel pris ce 10 juin. L'équipe de rédaction comprend notamment un président, deux rapporteurs et des experts. Le prix du bazin est en hausse depuis le début de l'embargo. La balle non teintée a augmenté de plus de 70 000 francs CFA. Les teinturières artisanales ainsi que les clients dénoncent une flambée qui intervient à quelques semaines de la fête de Tabaski. La rédaction s'intéresse au Tchapalo, cette boisson locale très consommée dans la région de Sang. C'est une histoire de culture selon certains ressortissants, mais les femmes qui travaillent dans la transformation du Tchapalo disent rencontrer d'énormes difficultés. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, Gagné Kanté assure la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'élaboration d'une nouvelle constitution sera bientôt lancée. Les autorités de la transition ont adopté ce 10 juin 2022 un décret portant création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays. Pour son exécution, une commission sera constituée. L'équipe comprendra notamment un président, deux rapporteurs et des experts nommés par décret. Selon le décret présidentiel, ce travail doit être effectué pendant une durée maximale de 2 mois. Les détails avec Issa Omar Togola.
L'élaboration de cet avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali entre dans le cadre de la refondation de l'État. Créé auprès du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le décret indique qu'une commission sera chargée de sa rédaction. Elle sera composée d'un président, des rapporteurs et des experts qui seront nommés par décret du président de la transition. Un personnel d'appui sera proposé par le président de la commission, puis nommé par arrêté du président de la transition. Cette mission durera au moins 2 mois avec une remise d'un rapport de fin de mission, indique le décret présidentiel. Quant à la mise à jour sur l'avancement des travaux, elle sera faite chaque 15 jours. Et toutes les dépenses liées à son fonctionnement seront imputées au budget de l'État. L'équipe de rédaction pourrait aussi travailler avec l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les partis politiques, la société civile et les groupes armés signataires de l'accord. Cette décision intervient alors que la CEDEAO prévoit de se réunir en sommet extraordinaire le 3 juillet prochain pour statuer sur le maintien ou la levée des sanctions commerciales et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier.
Le décret présidentiel présenté pour l'élaboration de la nouvelle constitution souffre d'incohérences, affirment certains constitutionnalistes. Selon eux, la procédure répond plutôt à une révision de la constitution que celle de l'élaboration d'une nouvelle. Docteur Fousseini Doumbia, constitutionnaliste, est joint au téléphone par Issa Omar Togola.
Aucune constitution ne renie les germes de sa propre destruction. La charte de transition ne prévoit aucune disposition pour démanteler la constitution. De 92, la Constitution elle-même ne prévoit aucune disposition pour sa disparition, ainsi que la loi portant révision de la Charte de transition. Donc, ça s'ouvre beaucoup d'incohérences à ce niveau. Quand on parle d'arrêté du président de transition, c'est que le président ne prend pas d'arrêté et beaucoup d'autres éléments. Pour faire disparaître une Constitution, quand il y a coup d'État, la Constitution disparaît. Donc, le consensus aussi fait décider de mettre en place une nouvelle Constitution. Et l'autre élément, c'est la révolution. Pourquoi le président de la transition ne met pas directement un comité d'experts et immédiatement on va à un référendum constitutionnel après que celui-ci aura fini de lui soumettre les conclusions pour la nouvelle constitution?
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04, le bilan de l'attaque perpétrée contre le poste de contrôle de Kuchala sur l'axe Kourissikasso ce samedi s'est alourdi. Il est maintenant de 9 morts. Un blessé a succombé hier selon des sources locales. Parmi les 9 morts, 2 sont des douaniers et le reste sont des civils. Au même moment, le poste de péage de Sienso à San a été la cible d'une attaque par des bandits non identifiés. Bilan provisoire, un mort et des dégâts matériels, selon des sources locales. Nous demandons une réduction des taxes routières et la fluidité dans le transport des produits entre le Mali et les pays voisins. Ces propos sont des différents syndicats des transporteurs routiers du Mali. Les transporteurs ont exprimé ce cri du cœur lors d'une conférence de presse ce dimanche 12 juin à Bamako. Siaka Diakité est le vice-président du Syntrom, syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali. Il est au micro de Sita Sidibé.
Le Mali fait face à une période très difficile. Puis la sanction illégale imposée par CEDEAO contre le Mali, c'est les transporteurs qui sont les premiers soldats au front. Maintenant, nous les transporteurs, nous sommes obligés d'envoyer nos chauffeurs maintenant dans les locales là où nous n'avons pas l'habitude d'aller. À l'époque, à ce moment, nos chauffeurs deviennent encore des nouveaux conducteurs dans ces différents pays-là. Donc, à ce même période, c'est la force de l'ordre, la police, la gendarmerie, la douane, etc., etc., doit faciliter la fluidité de nos véhicules, où la police, la gendarmerie doit continuer à mettre des habits sur les transporteurs.
Direction Yoroso, dans la région de Koutiala, ce 30 juin est consacré à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Elle vise à sensibiliser les populations à la lutte contre les difficultés que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent dans leur quotidien. À Yoroso, dans la région de Koutiala, les albinos continuent d'être l'objet de stigmatisation et de persécution à raison de certaines croyances. Cependant, les autorités locales affirment travailler pour mettre fin à cette situation. Retrouvons les témoignages de certaines mamans d'albinos dans ce reportage de notre correspondant Ali Aïdara depuis Yoroso.
Autrefois, dans le cercle de Yoroso, certains villages étaient interdits aux albinos. Et même aujourd'hui, certaines personnes ont comme totem de s'approcher d'un albinos. Les enfants albinos et leurs mamans sont souvent victimes de rejet par leur communauté et même leur famille. Ces femmes, ayant toutes des enfants albinos, nous expliquent les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien.
Beaucoup de difficultés avec son albinisme. Sa peau est sensible. Une fois au soleil, son corps s'enfle et souvent il saigne quand je l'amène avec moi en brousse. C'est vraiment pénible. La deuxième difficulté concerne son apprentissage. À l'école. Il a des problèmes de vision pour étudier.
Les problèmes que j'ai rencontrés avec son albinisme, c'est qu'une fois, je l'ai amené dans une famille pour la rencontre de notre tontine. Certains m'ont dit que l'albinisme, c'est leur totem.
Chaka Traoré, président de l'association des albinos de la région de Koutiala, appelle les populations à accepter cette couche.
Une fois qu'un albinos est apparu dans la famille, l'entourage rejette catégoriquement. On dirait que la femme est partie commettre l'adultère, alors que ce n'est pas ça. Ça, c'est un don de Dieu. Si les gens arrivent à comprendre que les albinos sont égaux comme les autres, donc ça va faciliter beaucoup de choses.
De Yoroso, Ali Haïdara pour Studio Tamani.
Studio Tamani à Yoroso, c'est sur la radio Chigné, direction 100. À présent, la boisson locale Tchapalo est très consommée dans la région de 100. Elle est faite à base du gros mil et sans additifs. Sa préparation demande une certaine maîtrise, explique des consommateurs à cette activité est transmise de génération en génération. Cependant, les femmes qui travaillent dans la transformation disent rencontrer d'énormes difficultés. Notre envoyé spécial Hassan Mohamed Ali Ag Aleida s'est rendu dans un tchapalodrome. Voici son reportage.
Les quartiers centraux de Saint. Albertine Dembélé est une des spécialistes de Tchapalo. Elle nous explique le processus de fabrication.
Nous mettons le sorgho dans un récipient contenant de l'eau. Il lui reste toute la nuit. Le lendemain, nous le lavons et nous le remettons dans une autre eau jusqu'à deux reprises. Le lendemain de la troisième nuit, nous le séchons, on le moue et nous le cuisinons, puis on extrait le jus. C'est ce jus qui devient Tchapalo.
Cette boisson désaltère est aussi un défatigant qui lutte contre la constipation. Affirme des sexagénaires rencontrés sur place.
C'est un défatigant, il n'a aucun effet indésirable sur la santé.
Cette boisson ne rend pas ivre. Moi, je la prends sans modération. C'est au fait un héritage de nos parents.
Madame Adèle Tchenou est propriétaire d'un chapelodrome. Elle emploie plusieurs femmes pour assurer la préparation de cette boisson. Mais Adèle dit souffrir d'un manque d'accompagnement.
le 1000. Souvent, le prix augmente, ça nous donne beaucoup de problèmes. Deuxièmement, n'est pas tellement gobé par la population. Ils pensent que ce travail, c'est un sale boulot. Parce qu'il y a des clients même qui viennent vers nous pensant que quand tu vends ça, tu es à la portée de tout le monde. On se respecte ici.
Les consommateurs affirment que toutes les vérités se disent autour d'une calebasse de Tchapolo.
Reportage signé Mohamed Ali Ag Alida, Studio Tamani à Sens et sur la radio Parana. Il est fréquent de rencontrer partout dans les marchés de Bamako des jeunes charretiers, autrement appelés les porte-tout. Ces jeunes charretiers expliquent un métier rude avec une multitude de problèmes. Diara Faskoy s'est intéressé au sujet.
Nous sommes au marché de Kalabankourou. Ici, ils sont des dizaines de jeunes à pratiquer les métiers de charretier. Parmi eux, Moussa Traoré, habillé d'un ensemble bleu, transpirant à grosses gouttes sous les soleils ardents, il tient son pouce-pouce. Moussa explique les enjeux de son travail.
Nous transportons les paniers et les sacs de légumes. Pour les marchands, ils nous payent selon le poids des colis. Nous prenons par exemple un panier de tomates à 100 francs, alors que c'est payé. Mais que faire, puisqu'il est difficile d'avoir un travail ici au Mali. Du coup, on se débrouille avec ça. Sinon, personne ne souhaite travailler ainsi.
Ces jeunes hommes expriment une frustration face à de nombreuses situations. Pour eux, le métier de charretier n'est pas du tout valorisé.
Il est possible de citer toutes les difficultés de ce métier. Il y a des jours où j'ai peine à avoir de quoi acheter à manger.
Quand tu heurtes les marchandises de quelqu'un, il te demande de payer. Alors qu'on ne nous cède pas la route. On se dispute toujours avec des gens pour ces histoires.
Notre travail n'est pas considéré. C'est pour cela qu'on nous manque de respect. On s'en prend à nous-mêmes quand on veut seulement traverser la route. Et si ça dégénère, c'est nous qu'on considère comme fautif.
Les motocyclistes nous renversent sans aucune considération.
Une partie de leur clientèle, majoritairement féminine, se dit satisfaite et soulagée. Par contre, certains dénoncent un comportement irrespectueux de ces jeunes.
Les charretiers la travaillent vraiment. Parmi eux, il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises aussi. D'autres s'enfuient même avec nos marchandises. Sinon, ils nous aident. Sans eux, on ne peut rien faire. Ils nous rendent un grand service car on ne peut pas prendre nos fardeaux nous-mêmes.
Au-delà de ces difficultés évoquées, certains jeunes charretiers se disent tout de même satisfaits de ce travail. Ils gagnent dignement leur pain quotidien et c'est mieux que le vol, explique-t-il.
Reportage signé Diara Faskoy. Restons dans les marchés de Bamako. C'est pour parler à présent du bazin. Les prix connaissent une hausse ces derniers temps au Mali. La balle de bazin non teintée passe de 180 000 francs CFA à plus de 250 000 francs CFA. Les teinturières artisanales ainsi que les clients dénoncent cette flambée qui intervient à quelques semaines de la fête de Tabaski. Les vendeurs et les importateurs du bazin justifient l'augmentation de ce tissu, du prix de ce tissu, par l'embargo et la crise ukrainienne. Moussa Malé Sissoko.
À Bamako, nombreux sont les consommateurs du bazin qui se plaignent de la hausse des prix. Pour certains, cette matière première de la mode malienne est devenue un sésame rare sur le marché. D'autres, en revanche, estiment que cette augmentation des prix se ressent au niveau de toutes les qualités de bazin.
Bazin avec la couleur blanche, 6 000 francs le mètre. Mais présentement, ça coûte 8 000 francs CFA.
La marque Gesner, qui était vendue le mètre entre 4 000 et 5 000 francs, est cédée aujourd'hui à 8 000 francs CFA.
Il y a une pénurie même.
Vraiment, nous demandons aux vendeurs de revoir les prix. Il est difficile de se passer du bazin aujourd'hui.
Ces teinturières que nous avons rencontrées au quartier Médine de Bamako n'ont pas tardé à exprimer leur désarroi et leur inquiétude. Elles affirment qu'en plus du bazin, les prix de teinture aussi flambent.
On achetait la balle du bazin de couleur blanche à 190 000 francs CFA il y a juste quelques mois. Actuellement, ces 30 mètres sont cédés à 250 000 francs CFA. Des gens gagnent leur vie à travers nous. Bientôt la fête des Tabaski. Nous n'avons pas de marché. C'est un manque à gagner pour nous. Au moins 6 femmes travaillent chez moi.
Pour les importateurs du bazin, cette augmentation des prix s'explique par la conjoncture actuelle dans le pays et la situation du marché mondial. Suleymane est vendeur du bazin à Ségou.
La plupart de nos marchandises transitent vers le port de Dakar. L'embargo sur le Mali a débuté au moment où nos commandes étaient déjà en route. Nos marchandises ont duré là-bas. Aussi, la demande est plus forte que l'offre.
Rappelons que ce tissu est importé principalement d'Allemagne, d'Autriche et d'autres pays de l'Europe et d'Asie.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité à l'intérieur du pays, la campagne contre la fistule obstétricale se déroulera du 13 au 12 au 19 juin 2022 dans la région de Sikasso. Les organisateurs affirment qu'ils sont prêts à assurer la prise en charge de 25 cas de fistule. Ils estiment le coût de la campagne à près de 33 millions de francs CFA. Ces informations ont été données vendredi dernier à Sikasso lors de la rencontre du comité de pilotage de la campagne de chirurgie de la fistule obstétricale. À 8h passées de 14 minutes, se referme cette édition présentée par Sikou Gadjigo, mise en onde de Gagny Kanté. Vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321 sur la plateforme Viamo.